Je n'ai pas eu le courage de chanter ça devant Karaté encore. Mais ça, ça me faudra. Bon, dernier point, c'est la cohérence de tout cela qui est complexe. Comment saisir la cohérence profonde de cette lente avancée intellectuelle et spirituelle du Newman, étant donné qu'elle est en dépendance directe d'influences culturelles riches mais éclectiques et disparates. Voilà. Comment un Newman en donne la clé lui-même? Ben, justement, Newman en donne la clé lui-même par l'aveu capital au cours de la deuxième section de l'apologie. Alors, je crois que je vous ai donné ce texte-là. C'est le dernier de ces textes qui vont avec le cheminement. C'est le numéro qui n'est pas, que vous n'avez pas encore lu là. Ah, c'est toujours... C'est un petit truc que vous n'avez pas lu encore. Vous l'avez devant vous, justement. Ici. C'est le numéro... Voilà, c'est ça, c'est numéro 7 qui se tient sur cette page-là. C'est changeant beaucoup de points. Oui, ça va, merci beaucoup, Père. Oui. Est-ce qu'on peut lire ça?
J'ai changé en beaucoup de points, mais pas sur celui-ci. Depuis l'âge de 15 ans, le dogme a été le principe fondamental de ma religion. Je n'en connais pas d'autre. Je ne peux me faire à l'idée d'aucune autre religion. La religion comprise comme un simple sentiment est pour moi un rêve et une dérision. Autant concevoir l'amour filial en dehors de l'existence d'un père que la piété en dehors de l'existence d'un être suprême. Ce que je croyais en 1816, je le croyais en 1833. Je le crois encore en 1864.
L'année où il rédige l'apologie, oui.
Et je le croirai, plaise à Dieu, jusqu'à la fin. Alors même que j'étais sous l'influence du docteur Whately, je n'étais pas tenté d'être moins zélé pour les grands dogmes de la foi, et à différentes reprises, j'ai résisté aux raisonnements par lesquels, à tort ou à raison, il me semblait qu'il les rendait obscurs. Tel était le principe fondamental du mouvement de 1833.
Et alors, on se demande, que veut dire cette dernière phrase, les raisons par lesquelles, à tort ou raison, il me semblait qu'il les rendait obscurs. Et moi, je dirais, ce qui est en cause là, et c'est ce que Vatican II, d'ailleurs, quand même a repris, c'est que Newman dira toujours que l'intelligence en tant que raison, non pas en tant que intuitus simplex veritatis dont parle Saint Thomas, mais la faculté de raisonner, si vous voulez, doit se soumettre à la conscience morale religieuse. Et c'est finalement la conscience morale religieuse qui est la boussole que Newman a suivie pendant toute sa vie, en soumettant son intelligence à l'obéissance à Dieu qu'il entendait dans le fond intime de sa conscience. La parole de Dieu qu'il entendait dans le fond intime de sa conscience. Et c'est en étant comme cela que Newman a cheminé lentement vers la vérité tout entière. Autrement dit, le raisonnement a toujours été mis à l'épreuve de ce que disait la conscience sur la vérité ou la non-vérité de ce qui était proposé par la raison. Voilà. Et dans ces états de partage qu'il avait entre le romanisme qui n'arrivait pas à avaler encore et l'hyper qui le poussait plutôt dans son catholicisme, il va rester dans cet état de déchirement tant que son intelligence ne finisse pas s'aligner sur ce que la conscience dicte, ou plutôt la conscience va dicter aller vers l'Église catholique lorsque ce problème des apparentes observances romaines par d'avance, si vous voulez, lorsqu'il dépasse, si vous voulez, cette caricature qu'il a de l'Église, cette conception un peu caricaturale qu'il a de l'Église. Et alors, je vous cite ici exprès comment le Vatican II, au fond, donne raison à Newman. Vous avez, par exemple, ici, dans Dignitatis Humanae, vous avez ceci, numéro 3. C'est par la médiation de sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est à ces injonctions qu'il est tenu de suivre, et qu'il est tenu de suivre ces injonctions fidèlement pour parvenir à ce qui est Dieu, à sa fin qui est Dieu. Ou alors, dans Gaudium et Spes, la conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Par fidélité à la conscience, les chrétiens doivent chercher ensemble la vérité, etc. Et on a dit, moi je ne suis pas tellement d'accord avec le commentaire qu'on a fait dans la revue Thomiste, publiée justement sur ce, qui publie le colloque qui a eu lieu à Toulouse sur la minute de la continuité, qui dit que les pères du concile ont voulu rester simplement sur le plan naturel. Parce qu'en fait, cette idée du fait que Dieu intervient dans l'intime de notre être, c'est déjà une sorte de surnaturel existentiel ou existentiel, comme dirait Aramère. Hein. Mais on n'a pas besoin de ces concepts métaphysiques préfétatoires lorsqu'on est newmanien. L'homme est structuré de telle façon qu'il est capable d'écouter Dieu. Voilà, c'est ça. Et au fond, l'idée d'une école laïque, une université laïque, pour Newman, c'est anathème. Parce que la première capacité que l'être humain a, c'est la capacité non pas de raisonner, mais d'adorer Dieu. Ça, Newman est convaincu de ça. Et maintenant, l'Angleterre est dans un état de sécularisation épouvantable, mais lorsque j'étais enfant, la seule matière qu'un directeur d'école était obligé de mettre dans son parcours, parce que c'était décentralisé en Angleterre, cette idée que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui décide le programme de toutes les écoles du pays, c'est un non-sens pour moi. Chaque directeur d'école décidait quelles étaient les matières que son école allait enseigner aux gamins. Mais il y en avait une matière qu'il ne devait pas omettre, c'était un enseignement religieux. Et le raisonnement était le suivant. La capacité qui a le plus besoin d'être éduquée chez l'enfant, c'est la capacité de son éveil à connaître Dieu. Voilà. Oui ou non. Et l'homme se distingue comme de l'animal pour l'humain, non pas parce qu'il est un être qui raisonne, mais parce qu'il est un être qui adore. Voilà. Moi, je suis convaincu de ça. Et si on analyse Saint Thomas et qu'on traite Saint Thomas comme on fait, vous savez, lorsqu'on veut justifier la théologie dans l'Église catholique, on fait de la sous-traitance ou de la traitance de Saint Thomas pour qu'il dise les choses. Hein. Mais je pense que le intuitus de Saint Thomas, qui est dans l'intelligence, est quand même cela. Saint Thomas ne réduit pas l'intelligence à la fonctionnalité, vulgaire qu'on voit ici lorsqu'on voit les séminaristes tassés dans la salle des ordinateurs là à côté. Bon, ben, excusez-moi. Faut que je... Par conséquent, je pense quand même qu'il y a là quelque chose. Et Newman a toujours suivi ça. Alors c'est justement cela que je voudrais approfondir maintenant, où il y a quelque chose aussi, c'est que c'est parce que le choix entre suivre cette voie ou la refuser est si radical dans l'être intime de l'homme que Newman dira qu'on marchera toujours sur une crête qui est un choix entre le tout ou le rien. La foi ou l'athéisme. C'est ce que vous disiez d'ailleurs, hein? Non? Le doute est partagé par le chrétien et par l'athée, mais le chrétien suit une autre voie. Et alors, moi j'ai terminé cette partie justement en citant, parce que les évangiles semblent naïfs, vous savez, mais ils ne le sont pas. Et lorsque Jésus descend de la montagne avec les trois apôtres qui ont vu sa gloire, il trouve un espèce de foutoir parce que les apôtres et un homme qui a un enfant épileptique qui le gêne et l'embarrasse parce qu'il fait ses crises devant tout le monde. Et alors, l'homme dit comme ça à Jésus, j'ai demandé à tes apôtres, ils ne pouvaient pas faire le miracle que je demandais, alors Seigneur, viens, etc. Et Jésus a dû penser, je ne suis pas la pharmacien du coin qui peut donner le produit que les apôtres n'ont pas donné. Alors, il relève la phrase de l'homme qui demande à Jésus, c'est si tu peux, c'est-à-dire si tu as le produit pharmaceutique correctement. Et Jésus dit, et le texte de Saint-Marc, c'est très très rude. Jésus répond, to aidune, ce qui veut dire littéralement, le si tu veux, autrement dit, est-ce que tu mets un conditionnel à ce que moi je peux faire? Et alors, tout est possible. Et puis Jésus ajoute à ce moment-là, non pas que tout est possible à lui, mais tout est possible à celui qui croit. Panta dunata, to piscionti, tout est possible à celui qui croit. Et alors, l'homme répond justement, quelque chose qui est sur la crête de ce choix entre le non-foi ou la foi. Parce qu'il dit ceci, Pistuo, Boethaimu te apistia. Je crois, viens au secours de mon athéisme. Voilà. Alors, c'est le choix entre les deux. C'est ça. Ou on croit en Jésus, ou on ne croit pas. Et Newman disait, la sécularisation conduira à un choix entre l'Église catholique ou le rien. Et l'anglicanisme, le protestantisme ne sont que des hôtels où on passe un certain temps tranquillement en attendant que cette île-là cède sous les flots, si vous voulez. Voilà. Il pensait ça. Que l'anglicanisme céderait sous les flots un jour de la sécularisation. Eh bien, on le voit. Le choix est comme ça. C'est pas ça? Bon. Voilà, les indications bibliographiques, nous en avons parlé longuement et je ne vais pas encore revenir là-dessus. Vous avez, dans la feuille que je vous ai donnée, vous avez simplement quelques indications que je n'ai pas précisées. Vous avez par exemple, parce que j'ai parlé des œuvres tout au long de l'exposé sur la vie de Newman, mais j'ai classé les choses un peu différemment sur la feuille de bibliographie que vous avez, parce que vous avez une édition qui est celle-ci, qui a été fondée par Bouillet en collaboration avec Nédoncel, et qui donne les principales écrits de Newman. Malheureusement, ça c'est, il n'y avait pas assez d'argent pour publier la lettre de la réponse de Newman à Pusey, qui est un petit traité de mariologie qui est extraordinaire. Mais je dirais volontiers que les quatre ouvrages qui sont les plus essentiels pour connaître la synthèse de Newman, c'est Sermons universitaires, Essai sur le développement, Apologia et Grammaire de l'assentiment. Ces quatre-là permettent finalement de saisir l'essentiel de ce que Newman a voulu donner à l'Église. Ensuite, j'ai mis là quelques ouvrages sur Newman et je signalais surtout l'ouvrage de Walgrave, Newman, le développement du dogme, Casterman, 1957, parce que cet ouvrage-là a compris que c'est la psychologie et la manière dont Newman aborde la psychologie spirituelle, si vous voulez, pas simplement empirique, mais spirituelle, qui détermine finalement comment il va aller au problème du développement du dogme. Que de même que des idées maîtresses se déploient dans notre esprit progressivement, non pas selon les droits de la logique, mais selon leur référence à un tout qui est implicitement ou plus ou moins explicitement perçu. De même, dans l'Église, le dépôt de la foi va se développer de cette façon-là. Mais cette analyse psychologique, à mon avis, ou cette comparaison psychologique a besoin d'être appuyée par une métaphysique et une ecclésiologie. Ensuite, vous avez là, alors Nicholas Lash, Newman on Development, c'est une horreur, donc il ne faut pas le lire. Et puis, une biographie récente qui fait autorité, et je l'ai mis à cause de ça, Ian Kerr, John Henry Newman, je dirais, il ne faut pas le lire. Oh non, mais je sois sage. Mais c'est quelque chose qui donne tous les faits, et il analyse les 32 tomes de lettres de A jusqu'à Z, et alors il sort triomphant avec des données que personne d'autre n'avait perçues avant. Mais il n'y a pas d'idée derrière cet ensemble, il n'y a pas de compréhension de la pensée de Newman, c'est du porridge britannique, si vous voulez. Et alors vous avez Owen Chadwick, Newman, ce petit livre de Owen Chadwick sur Newman, ça a été traduit en français, et lorsque on a proposé des lectures de carême à Ars, Hervé Benoît a proposé ce livre-là en traduction française, qui a été très bien fait d'ailleurs par deux anglicistes qui ne vivent plus maintenant, mais qui ont bien compris la pensée de Owen Chadwick. Mais alors, parce qu'il lançait de temps en temps de petites pointes du côté de l'Église catholique, on a retiré cette lecture. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en fait, malgré ce qu'il dit sur Newman catholique, qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, parce qu'il y a eu quand même une certaine atrophie de la créativité de Newman. Pendant 20 ans, il est resté à ronger son frein. On ne peut pas le nier. Malgré quelques petites pointes en direction de l'Église catholique, la manière dont il analyse le fonctionnement de Newman dans sa pensée et sa culture religieuse est justement bien vu, parce que Chadwick lui-même a baigné dans la même culture, si vous voulez. Et un catholique n'a pas baigné dans l'anglicanisme. Les catholiques, même un bouillé, si vous voulez, avec un esprit si pénétrant, n'a pas baigné dans l'anglicanisme comme enfant, comme jeune professeur, quelque chose comme ça. Mais enfin, il a été protestant, et ça lui permet d'aller quand même loin. Mais moi, je dirais que la personne qui a le mieux compris la véritable portée de Newman, c'est Maurice Nedoncel, qu'on a mis de côté parce que son personnalisme ne plaît pas à un épiscopal ou à un catholicisme français qui met l'accent sur le social. Ça ne plaît pas. Alors que Nedoncel a vraiment compris le personnalisme de Newman. Et il a dit, la seule manière de lire Newman d'une façon intelligente, c'est de conforter son personnalisme suggéré par une psychologie extrêmement pénétrante, par un fondement de personnalisme métaphysique. Et c'est ça qu'il faut faire. On doit fonder le personnalisme de Newman par un personnalisme avec métaphysique. Et Nedoncel a fait ça. Moi, si vous voulez voir comment il pénètre dans Newman, il faut lire par exemple son introduction aux sermons universitaires, le premier tome de cette collection Bouygues-Nedoncel. C'est un petit chef-d'œuvre qui montre que la cohérence de Newman se trouve justement dans la manière dont la personne aborde la vérité et comment la vérité s'assimile à une personne et non pas simplement à un ordinateur ou quelque chose qui est binomial, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Même si je dis des bêtises, vous voyez. Bon. Ensuite, alors, je vais passer maintenant à cette partie que j'ai modifiée, parce que je voudrais concentrer les quatre dernières heures de cours plutôt sur le problème du passage des motifs de crédibilité à l'acte de foi. Et par conséquent, j'ai résumé une première partie sur la connaissance de foi chez Newman. Je l'ai résumé. Et vous avez les feuilles, je pense, des textes qui illustrent là, oui, vous l'avez, et il y a une feuille avec quatre textes, hein, d'accord. Et vous avez quelque chose là qui n'est plus ce que je vais traiter. Ah non, non, vous l'avez peut-être pas. Vous avez pas, non, non, vous l'avez pas. Donc ça va, il n'y a pas de confusion. Alors qu'est-ce que je voudrais faire, dire, qui prépare finalement à cette psychologie du passage du motif de crédibilité, vu comme un cumul de probabilités, si vous voulez, à l'acte de foi. Eh bien, je mets sur le tableau le titre comme ceci. Préalable à l'exposé de la psychologie, sur la psychologie de la foi. Alors, j'ai essayé de préciser les choses suivantes. Ah ben d'abord, plutôt introduire ça que tout ça. Notre exposé sur le cheminement intellectuel de Newman a montré, au fond, que le problème de la place de la raison dans l'acte de foi occupe le devant de la scène, dans ce sens que Newman ne va pas se résoudre à faire des motifs de crédibilité, des preuves logiques, des exposés de la, logiques comme la polygétique classique. Bon. Autrement dit, il a poursuivi sa recherche sur les motifs de crédibilité qui sont le fondement en raison de l'acceptation de l'Église catholique comme la seule véritable Église du Christ. Il a fourni, il a poursuivi cette recherche jusqu'à, sous l'action de la grâce, il a pu faire le saut de la pure foi, et cela avec une sorte de convergence de choses qui arrivaient dans sa vie et qui le poussaient toujours plus en avant dans ce sens, et non pas par une série de raisonnements logiques. Autrement dit, l'originalité de sa pensée sur le problème de l'acte de foi consiste à la manière dont il envisageait les antécédents de la foi susceptibles, sous l'influence d'une grâce illuminatrice, d'intelligence, à conduire l'intelligence à ce saut, à cet acte de la foi. Donc, c'est ça que nous devons étudier dans les prochains cours, que j'ai appelé les antécédents de la foi. Et maintenant, il nous faut laisser de côté la première partie de la grammaire de l'assentiment, où il établit la nature de la connaissance de foi, contrastée comme connaissance réelle avec la connaissance scientifique comme connaissance notionnelle. Cependant, pour bien comprendre l'enjeu de l'étude qui suit sur les antécédents de la foi, ce qui occupe le reste, ce qui va occuper le reste de mon cours, il nous faut reprendre quelques distinctions de cette première partie de la grammaire de l'assentiment, notamment l'exposé sur la conscience morale religieuse, qui permet à Newman d'affirmer que la connaissance de foi est d'ordre la connaissance réelle et non pas simplement notionnelle. C'est de l'ordre des réalités et non pas de l'ordre des raisonnements logiques ou scientifiques. Bien qu'il s'agisse d'un acte de foi, là derrière des réalités invisibles sur lesquelles est jeté comme un voile pour l'intelligence, même illuminée par la foi. Donc, quelles sont les notions à reprendre pour bien comprendre comment Newman a pu parler de la foi, ou des choses, de l'objet de la foi comme étant objet de connaissance réelle? Alors, j'ai trois points là que je vais mettre sur le tableau. La distinction entre connaissance notionnelle et connaissance réelle. connaissance des valeurs morales. Étonnant. Absence de preuve absolue, même dans les sciences exactes. Je vais passer vite parce qu'en fait j'en ai parlé déjà, mais on va ensuite la connaissance des valeurs morales, donc la connaissance réelle si des choses de Dieu. Il me semble que oui, la connaissance des valeurs morales en fait ensuite, alors là, je passe vite aussi. Mais là où je vais insister davantage avec les textes que vous avez, c'est la connaissance réelle et qui sont donnés ses attributs par la conscience. Autrement dit, le fondement, la religion naturelle est de l'ordre de la connaissance réelle, ce qui permet à Newman de passer à l'autre affirmation que la connaissance révélation aussi et de l'ordre de la connaissance réelle. Donc, connaissance réelle, de l'existence de Dieu et de ses attributs. C'est le point le plus important. Preuve de l'existence de Dieu par la conscience. Au fond, Newman a des paroles extrêmement pessimistes sur la possibilité de prouver l'existence de Dieu à partir du monde, parce qu'il constate que le monde n'est pas très beau. Il est tout en étant romantique et en appréciant de beaux paysages, il n'est pas très content de la façon dont les choses se passent. Je vais vous donner un exemple qui vous montrera sa sensibilité, qui est absolument étrangère à ce que nous vivons. L'Angleterre a couvert la surface de la Grande-Bretagne de chemin de fer. Et alors, on trouvait que ça, c'était merveilleux. Et alors, on a même appris aux Français comment construire le chemin de fer. La première voie de chemin de fer a été construite par des Britanniques entre Le Havre et Rouen. Je ne sais pas si c'est assez dans les histoires de la France. Ça.
Mais le contraire. Hein.
Comment ?
C'est pas le contraire.
Quoi ?
Qu'on leur a appris aux Anglais.
Emmanuel Faurent, je ne suis pas dupe. je sais que ça touche à quelqu'un. Justement, je vais vous raconter encore une histoire. Une fois à Ars, j'ai dit ceci. On m'a demandé de donner une série de conférences pendant le carême je ne sais plus ce que c'était. En tout cas, je leur ai dit ceci. Lorsque les foules commencent à venir à Ars, la Vierge Marie a regardé du ciel. Elle a dit, « Ah, c'est pas très marrant, parce que comment est-ce qu'ils vont s'y rendre ?» Bon. Elles vont s'y rendre. Et d'autre part, moi, je vais apparaître à l'autre un peu plus tard. Comment est-ce qu'ils vont venir du monde entier? Eh bien, je vais pousser les protestants britanniques à inventer le chemin de fer pour que des pèlerins puissent venir à Ars dans un confort relatif. Et je vais pousser les Britanniques, pendant Napoléon gaspille les forces vives de la France, à inventer le bateau à vapeur pour que des Américains puissent traverser l'Atlantique et arriver à Londres. Bon. Et alors, j'ai dit, par conséquent, si on suit la philosophie de saint Thomas, les Anglais ont donné, sous l'impulsion de la Vierge Marie, la matière prima, et les Français ont donné la forme substantielle, la spiritualité. Et alors, c'était à la gloire de la France, ça, quand même. Et puis, à la fin de la cérémonie, un frère furieux est arrivé sur mon lieu. Non, c'est nous qui avons. J'ai dit, allez regarder dans votre loue, la rousse universelle, où il est dit, là, de tout savoir sans rien apprendre. Bon.
Et alors,
il a trouvé que le chemin de fer a été inventé par les Britanniques. Alors, il était confondu. Mais j'avais donné la substance, j'avais donné la forme substantielle à la France et la matière prime aux Anglais. Et alors, ils n'étaient pas contents.
On ne va pas se fâcher pour si peu, mais bon, c'est nous qui avons.
Oui, mais alors, pour revenir à Newman maintenant, Newman n'était pas si content que ça qu'on trouvait la Grande-Bretagne dans les eaux de chemin de fer tout partout. Et lorsqu'il savait que le chemin de fer est arrivé à Didcot, qui est à 12 milles de Oxford, il a dit, ah, ça c'est trop près. Et alors, c'est le moment de quitter Oxford et de me retirer dans la solitude à Littlemore. Vous voyez la différence entre le monde dans lequel... La différence entre son approche et le vôtre. Parce que dès que le week-end commence, les voitures partent dans tous les sens pour l'association. C'est un monde autre. Newman était menacé par le fait que le chemin de fer y arrivait. Parce qu'il va dire, il y a des foules qui vont venir à Oxford. Alors si des foules viennent à Oxford, c'est foutu. Et il était un peu élitiste quand même. Hein. Il était un petit peu élitiste. Mais il a corrigé son élitisme par l'humilité. Parce que lorsqu'il a fondé l'oratoire de Birmingham, eh bien, il y avait beaucoup de catholiques anglais. Les usines, Birmingham est une ville industrielle qui a quadruplé de population pendant sa vie avec la poussée de la révolution industrielle qui a été énorme, est allée très vite, et alors il fallait des ouvriers pour faire tourner les choses, et c'était des Irlandais catholiques. Par conséquent, les Irlandais catholiques se massaient aux messes que disaient les pères oratoriens. Et alors, c'est quand même Kerr qui dit ceci, je pense. Que lorsqu'il allait au confessionnal pour confesser des Irlandais, Anglo-Irlandais, non seulement il devait supporter une odeur, mais il attrapait les puces de ces gens qui venaient se confesser. Il acceptait ça. Donc il se rachetait quand même. Il était élitiste, mais quand même, il aimait. Et on a dit, allez, venez pour l'Italie. Et alors, sur son lit de mort, il y a une femme, je crois, toute simple qu'il a aidée, qui était tellement impressionnée par sa délicatesse qu'elle lui a offert un tissu ou quelque chose comme ça, quelques jours avant sa mort, pour lui dire son merci à Newman d'avoir été si délicat avec elle. Des choses comme ça. Donc, voilà Newman. Bon. Et je reviens à ce que je voulais dire. Premier point, c'est la distinction de connaissances notionnelles et connaissances réelles. Et je vais simplement prendre un passage de la grammaire d'un sentiment qui le dit très clairement. Page 55 à 56 dans cette édition de Bouyenne et Lorsel. L'appréhension des propositions, parce que toute la première partie de la grammaire des sentiments s'appelle assentiment et appréhension. Donc, le problème de l'assentiment est vu en fonction d'une distinction entre des formes de connaissance. Alors que dans la deuxième partie, c'est inférence et assentiment, donc c'est le problème des motifs de crédibilité, des antécédents de l'acte de foi qui va être posé en connaissance réelle. Donc, voilà. Par appréhension des propositions, j'entends l'acte d'imposer un sens au terme dont elle se compose. Or, que représentent les termes d'une proposition? Sujet-prédicat? Parfois, il représente certaines idées qui existent dans notre esprit et rien en dehors de lui. Parfois, uniquement des choses extérieures à nous, dont nous prenons conscience par les expériences et les informations que nous en avons. Toutes les choses dans le monde extérieur sont une et individuelles et rien d'autre. Alors c'est là où il y a son optimisme, si vous voulez. Hein. Parce qu'en fait, les universaux, on ne peut pas séparer l'abstraction que la raison fait des objets individuels pour les connaître aussi par leur caractère. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'esprit non seulement considère ces réalités une telles qu'elles existent, mais il a le don, par un acte de création, d'évoquer devant lui des abstractions et des généralisations qui n'ont aucune existence, aucune contrepartie en dehors de lui. Saint Thomas ne dit pas ça, hein, les universaux, il ne dit pas ça. Or, il y a des propositions dans lesquelles un terme ou tous les deux sont des noms communs en tant que représentant ce qui est abstrait, général et non existant. Comme par exemple, l'homme est un animal. Quelques hommes sont savants. Un apôtre est une création du christianisme. Une ligne est une longueur sans largeur. Se tromper est humain. Pardonner est divin. Ces propositions, je les appellerai notionnelles. Et notionnelles aussi, l'appréhension avec laquelle nous les inférons ou nous leur donnons notre assentiment. Et plus tard, il dira dans la deuxième partie, l'inférence à des propositions notionnelles est évidemment beaucoup plus faible que des assentiments à des propositions de choses réelles, à des choses réelles. Il y a d'autres propositions qui sont composées de noms singuliers et dont le terme représente des choses extérieures à nous, une et individuelles, comme Philippe était le père d'Alexandre. La terre tourne autour du soleil. Les apôtres prêchaient d'abord aux Juifs. Et celles-là, je les appellerai propositions réelles et réelles appréhensions. Il y a donc deux sortes d'appréhensions ou d'interprétations auxquelles les propositions peuvent être soumises, l'appréhension notionnelle et l'appréhension réelle. Voilà. Voilà comment il classe les choses. Le deuxième point, c'est contestation de conception naïve de la preuve absolue dans les cas des sciences exactes. À cause justement du rationalisme du 19e siècle, Newman s'est évertué à dire que s'agissant même des sciences exactes comme la physique ou les mathématiques ou tout ce que nous appelons les sciences exactes, en fait, il n'y a pas tant d'exactitude que nous avons toujours certitude absolue. Il prend par exemple, même, c'est assez osé comme exemple, il a dit, avant que nous avions la connaissance réelle de la planète Neptune, que nous pouvons maintenant voir avec des télescopes très puissants, eh bien, des calculs mathématiques postulaient l'existence de Neptune. Et Newman va jusqu'à dire, c'est osé, même si on a découvert par connaissance réelle la planète de Neptune, lorsque c'était simplement une connaissance notionnelle, ce n'était qu'une probabilité. On aurait pu se tromper. Même si la connaissance réelle est venue confirmer le calcul comme étant exact. Il a dit, tant que nous n'avons pas vu Neptune dans le ciel, eh bien, le calcul mathématique aurait pu être une fumisterie. Voilà. Il est terrible, parce qu'il veut dénoncer cette et alors s'agissant des sciences historiques et psychologiques les sciences humaines, disons sociologie, alors la sociologie n'est pas née du vivant de Newman vraiment, mais il y avait deux sciences humaines qui étaient en plein essor avec Freud et cetera en Allemagne, et puis aussi l'histoire. Et alors, Newman a dit, ces deux sciences-là ne peuvent que nous donner que des probabilités. Nous n'avons pas des preuves exactes de quoi que ce soit en histoire, ni en psychologie. Tout est de l'ordre de la possibilité, postulée, probabilité. Il les range comme ça. Parce que si vous me dites, un témoignage m'a été donné que telle chose s'est passée, est-ce que le témoin est fiable? Est-ce qu'il était assez proche de l'événement, de la chose qui s'est passée pour vraiment la voir? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors évidemment, à ce moment-là, il est complètement opposé aux certitudes, soi-disant, de l'exégèse historico-critique des Allemands qui envahissaient l'Angleterre à cette époque-là et qui mettaient en doute la foi, qui était une épreuve pour la foi de beaucoup d'Anglicans, qui ne pouvaient pas s'appuyer sur l'autorité de l'Église pour dire comment il fallait interpréter l'Écriture. Donc beaucoup d'Anglicans ont perdu la foi dans cette efflorescence, enfin cet essor de l'exégèse historico-critique si sûre d'elle-même, alors qu'elle reposait sur des principes philosophiques qui étaient finalement ceux de la philosophie des Lumières et non pas vraiment d'une philosophie ouverte sur la possibilité. Le fait, par exemple, que Lady Bellius et autres ont eu le toupet de nier la possibilité du miracle, enfin des choses comme ça, c'était une horreur pour Newman, ça, parce que c'était déjà rétrécir le donné en fonction de présupposés qui n'avaient rien à voir de raisonnement scientifique. Et Newman était toujours en train de dénoncer des choses comme ça, vous voyez. Et ici, j'avais pris un exemple aussi qui est à la limite du possible, parce que ça semble qu'il... pour la science historique, c'est assez bien vu. 440, la page est plus jalée. 443 de la... J'avais les sentiments. On a beaucoup écrit ces dernières années sur l'état de la Grèce et de Rome pendant la période préhistorique. Disons pendant que la période antérieure aux Olympiades en Grèce, à la guerre avec Pyrrhus dans les annales de Rome. Or, dans une question comme celle-là, il est clair que le chercheur doit avant tout décider d'où il va partir en présence des récits qui sont parvenus jusqu'à nous, par quel côté il doit les aborder, d'après quels principes il doit conduire sa discussion, ce qu'il doit tenir comme établi, quelles opinions ou objections écarter sommairement, comme fut-il, quels arguments considérer comme appropriés, et à quel moment, quelle fausse issue éviter, quand il peut estimer que ces arguments sont mûrs pour une conclusion, doit-il commencer par rejeter d'une façon absolue tout ce qui a été admis jusqu'ici, ou le conserver dans ses grandes lignes, doit-il faire un choix dans cet ensemble, ou le considérer et l'interpréter comme mythique ou allégorique, doit-il conserver tout ce qui est digne de foi, ou tout au moins comme faisant autorité, prima facie, aussi longtemps qu'il n'est pas à même de le réfuter, doit-il enfin se décider à ne jamais détruire, et ainsi de suite. Alors, lorsque vous avez fini ces questions, vous dites, mais on n'a rien prouvé. On n'a rien prouvé. On a simplement pris sa propre ligne et on a proposé ça comme ce qui est vos croire. Il faut qu'ensuite que les arguments pour et contre soient bien mis en balance. Il reste enfin à décider s'il est possible de formuler une conclusion quelconque, ou bien s'il est possible de conclure avant même que certains résultats soient éprouvés, établis, ou encore si la conclusion soit probable ou certaine. Il est évident que l'on soit tenté ici et là de porter un jugement définitif, que ce jugement ne devra pas grand-chose à la logique qui dépend de la tournure d'esprit de l'auteur. Voilà. Alors, avec ça, c'est Marot avant Marot, hein. C'est Marot avant Marot. C'est un problème herméneutique, si vous voulez. Vous vous mettez à un certain endroit dans un contexte historico-socialement déterminé. Bon. Vous vous mettez à tel ou tel endroit de ce contexte. Suivant l'endroit où vous mettez, vous verrez l'effet historique sous telle lumière ou sous telle autre lumière. Et voilà. Et vous ferez votre histoire suivant ça. C'est comme ça. On finit par être sceptique, vous savez, lorsqu'on est. Bon, allez, j'arrive.